Bonjour à tous. Voilà notre émission d'Amnesty International pour la dignité se déroule ce mois-ci également en confinement, puisque je suis chez moi au téléphone avec Odile Frison, qui vous passera donc cette émission en léger différé cet après-midi à partir de 16h30. Cette émission est orientée sur cette crise que nous vivons, cette crise sanitaire. Et Amnesty demande à être ensemble malgré tout. En effet, des règles strictes ont été énoncées par le gouvernement français et de nombreux autres gouvernements, et un dispositif de confinement a été mis en place pour lutter contre l'évolution de la pandémie. La situation actuelle mobilise légitimement toute notre attention. C'est inédit pour tout le monde. La priorité d'Amnesty est d'assurer que la santé et la sécurité de tous et de toutes soient protégées, notamment ses équipes de salariés et tous les bénévoles. Cette crise nous montre à quel point nous sommes tous liés les uns aux autres et pourquoi nous devons nous soutenir mutuellement. C'est dans de telles périodes de crise que des choses nouvelles peuvent émerger. Nous nous devons d'être créatifs, mobilisés et solidaires. Solidaires. Et solitaires aussi, mais solidaires. Notre combat continue, car bien que le monde ait les yeux rivés sur l'évolution du Covid-19, nous devons continuer à accomplir notre mission, la défense des droits humains partout dans le monde, y compris en France. Tant qu'il existera des violations de ces droits, nous serons là pour les dénoncer. Notre activité est donc maintenue et nous poursuivons la mobilisation sous d'autres formes, avec la même énergie. Nous allons proposer à toutes et tous des actions adaptées à la situation particulière que nous vivons. Notre action prend tout son sens quand nous prenons conscience de l'impact que le virus a sur les personnes les plus vulnérables. Se soutenir mutuellement, c'est notamment lutter tous ensemble contre le racisme et les discriminations. Mais concrètement, comment agir? Pour faire face à la situation actuelle, tout le monde a des droits. Droit à être informé de façon précise et régulière par le gouvernement. Droit d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à des congés rémunérés en cas de maladie. Mais aussi des devoirs, agir de façon responsable et respecter le confinement et les gestes barrières, se soutenir les uns les autres, en particulier les personnes âgées et les personnes fragiles, manifester notre reconnaissance envers les soignants et ceux qui travaillent pour assurer les services essentiels, et bannir les propos racistes. Nous sommes tous concernés par ce virus mondial. C'est donc un message de solidarité que nous voulons porter, solidarité avec la population française et avec celle des pays touchés par le virus. Solidarité avec tous et particulièrement en ces temps difficiles avec les soignants et les plus démunis. Alors, ce que vous pouvez faire pour Amnesty, pour aider les droits humains, déjà partager de l'espoir et des messages positifs, hein, puisque les informations sont difficiles à supporter en ce moment. Et on trouve toujours des choses positives, des personnes qui font preuve de solidarité, et c'est bien de les partager. Vous pouvez apprendre aussi des choses utiles. Vous allez sur le site d'amnesty.fr et vous pourrez étudier de nombreux supports pédagogiques relatifs aux droits humains. Nous avons une section sur notre site Éducation aux droits humains dédiée à cela. Vous pouvez par exemple apprendre à lutter contre les discours toxiques, les discriminations ou encore la torture, apprendre à vous protéger en ligne et à promouvoir la sécurité numérique. Comprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme avec Guillaume Meurice, découvrir notre offre de contenu pédagogique. Vous pouvez agir en ligne, bien sûr, des atteintes aux droits humains continuent de se produire dans le monde. Profitez de ce temps supplémentaire que vous avez pour agir et vous exprimer. Au cours de ce confinement, nous vous proposons de multiples actions à réaliser en ligne. Découvrez l'ensemble de notre offre d'action en allant sur le site amnesty.fr. Par exemple, vous pouvez montrer votre solidarité avec Yasaman Areyani, emprisonné pour avoir défendu les droits des femmes, interpeller les autorités grecques pour exiger l'accès aux soins aux réfugiés et migrants, interpeller votre député au sujet des ventes d'armes françaises, ventes d'armes qui, hélas, servent à bombarder au Yémen des hôpitaux, hein, et avec la crise actuelle, c'est encore plus inconcevable de détruire des hôpitaux avec tout le matériel de soins, ainsi que de tuer les médecins, les infirmiers et tous ceux qui sont là pour les autres. Vous pouvez également visionner notre série documentaire Éclairage. Alors là, il faut aller sur notre chaîne YouTube Et vous avez une série de documentaires produits par Amnesty France. Chaque épisode vous permet de découvrir et comprendre un enjeu d'actualité, une situation en lien avec les violations des droits humains. Vous pouvez visionner aussi des films que l'on soutient. Entre culture et cinéma, vous avez disponible en ligne gratuitement sur le site amnesty.fr des films à voir, notamment Parvenant, Citizen Four, Lindy Lou, etc. Vous pouvez aussi aider les autres à utiliser les réseaux sociaux. Si vous êtes à l'aise avec cette technologie, vous pouvez les aider à utiliser la messagerie des réseaux sociaux. Vous les appelez à distance et vous expliquez un petit peu comment ça fonctionne. Ça permet de lutter contre l'isolement et trouver des communautés et d'autres personnes avec lesquelles elles pourront échanger par voie numérique. Voilà, prenez soin de vous et des autres. En attendant, nous allons passer maintenant une chanson de Leonard Cohen, ce partisan qui donc parle justement de cette lutte pour la dignité en période de crise. Là, c'était en période de guerre. Il paraît qu'on est en guerre, c'est pas tout à fait pareil, mais ça mobilise aussi toutes les énergies. Donc nous écoutons Leonard Cohen.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows.
Voilà, après cette très belle chanson de Leonard Cohen, nous allons parler de la Chine, puisque c'est de la Chine qu'est parti ce virus. Alors nous avons une préoccupation dans l'immédiat, c'est l'expulsion de journalistes qui travaillaient pour trois grands journaux américains en Chine. Et cette exclusion entrave un peu plus l'accès à l'information autour du Covid-19. En effet, le gouvernement chinois a ordonné aux journalistes américains travaillant pour le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post de rendre leurs cartes. Cette attaque contre la liberté d'expression cible les journalistes qui ont dévoilé de nombreuses violations des droits humains en Chine, de la province de Xinjiang à Hong Kong. Leur publication proposait des investigations fouillées sur l'épidémie du Covid-19 dans le Wuhan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que cette décision faisait suite aux restrictions injustifiées imposées aux médias chinois aux États-Unis. Le 2 mars, le gouvernement américain a en effet décidé de plafonner le nombre de journalistes travaillant pour 4 médias d'État chinois aux États-Unis. Ce dernier épisode de la série de représailles entre Pékin et Washington menace d'affaiblir nettement le flux d'informations exactes et indépendantes en provenance de Chine. À une période où le monde a besoin de travailler ensemble pour combattre ce virus dévastateur, l'exclusion de ces journalistes pourrait avoir des conséquences désastreuses en termes de santé publique dans le monde comme en Chine. Toujours en Chine, vous savez, on avait fait passer le film Liu Xiaobo à Digne et on avait un intervenant, Jean-Philippe Béja, qui est un sinologue et qui nous avait parlé justement de la censure en Chine et de la façon dont les Chinois démocrates arrivaient à détourner la censure, par exemple. Le 4 juin 1989, c'est le massacre de Tiananmen. Et bien sûr, cette date est absolument interdite sur tous les réseaux sociaux, dans tous les médias. On ne doit pas parler de ces événements, de ce massacre. Et donc, les Chinois, par exemple, à titre d'exemple, hein, il y en a eu beaucoup d'autres, mais utilisaient le 35 mai. Donc le 35 mai, bien sûr, ça correspond au 4 juin et c'était une façon pour eux d'échapper un moment à la censure. Et bien avec le coronavirus, on a une nouvelle langue contre la censure en Chine afin d'échapper donc au système de cybercensure, c'est le plus sophistiqué au monde hein, en Chine. Les internautes chinois n'ont d'autre choix que d'inventer leur propre vocabulaire afin de débattre de sujets sensibles, notamment la gestion de l'épidémie de coronavirus par le gouvernement. Ce langage ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que le gouvernement interdit de nouveaux sujets, de nouveaux termes. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les internautes chinois redoublent de créativité et étoffent un peu plus cette langue virtuelle. Pour apprécier pleinement les conversations sur les réseaux sociaux en Chine, savoir parler chinois ne suffit pas. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement chinois a été vivement critiqué. Les internautes lui reprochent notamment sa tentative initiale de dissimuler l'épidémie et certaines informations d'intérêt général. En réaction à l'explosion des critiques en ligne, une multitude de nouveaux termes a été classée sensible et donc censurée. En janvier, des utilisateurs du réseau social chinois Weibo se sont ainsi plaints que les mots Wuhan et Hubei, foyer de l'épidémie, faisaient l'objet de restrictions. Seule une petite proportion des utilisateurs pouvait voir les posts contenant ces mots. Les critiques visant les autorités dans ces régions ont été muselées. Sur le WeChat, autre réseau social très prisé, des combinaisons comme Xi Jinping va à Wuhan et Wuhan et PCC, crise Pékin, étaient systématiquement censurés. Et donc les internautes se sont mis à utiliser WH, HB, les initiales de Wuhan et Hubei, en remplacement, c'est tout simple, mais cela tend à se compliquer. Cette liste de termes censurés évolue constamment et n'est jamais révélée publiquement. Dans un contexte de censure accrue au sujet de l'épidémie du coronavirus, de nouveaux mots sont interdits chaque jour. Les internautes chinois ont l'habitude de substituer des alternatives aux mots sensibles et chacun s'auto-censure en permanence dans le but de battre le système. La Croix-Rouge chinoise et sa capacité à distribuer des ravitaillements ayant été remises en cause, les internautes ont anticipé que Croix-Rouge allait être censurée et l'ont remplacée par 10 rouges. En effet, le caractère chinois pour 10, c'est une croix, chi, ça ressemble à une croix. Parce que la population a douté du fait que la Croix-Rouge nationale avait mal géré les ravitaillements, des hashtags comme les ravitaillements sont rouges ont connu un franc succès. Autre exemple, l'usage des F4, Boys Band Taïwanais des années 2000, l'acronyme désigne désormais quatre hommes politiques régionaux. Le gouverneur de la province de Hubei, le secrétaire du comité du Parti communiste de Hubei, le maire de Wuhan et le secrétaire du parti de Wuhan. Voilà, c'est tout ce génie créatif
Quel travail, hein, pour lutter
ah
contre
oui,
la
qui est utilisé en
censure.
Chine. Oui, c'est un travail qui est fou. Par exemple, la plainte d'un parent sur Weibo concernant son enfant qui a du mal à apprendre a été supprimée instantanément. Vous savez pourquoi? C'est
Non.
parce qu'en chinois, le nom de famille du président signifie apprendre. Dans ce contexte, dire qui a du mal à apprendre mérite d'être censuré parce que c'est une attaque au président.
Incroyable.
Voilà, donc comment échapper au sentiment lancinant de cette mine de sagesse et d'imagination pour être mieux employé à des fins plus productives que ce combat permanent pour se faire entendre contre la censure. Voilà, en ce qui concerne la Chine, donc on va maintenant passer à une page musicale de HK, sans haine, sans armes et sans violence.
Mais sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de compassion. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible. Du temps de cerveau disponible, oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence.
prédicateur de la sainte finance, toxicomane accro à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence.
Voilà, alors toujours des informations liées bien sûr au Covid-19, hein, en Inde. L'accès total à l'information est nécessaire pour faire face à la pandémie du coronavirus. Le gouvernement de l'État de Jammu et Cachemire doit rétablir le plein accès à Internet et garantir que la population puisse librement obtenir des informations sur la situation pour prendre des mesures qui s'imposent pour se protéger. Cette pandémie suscite une angoisse croissante et de telles restrictions sur le contenu de la diffusion de l'information ne peuvent qu'ajouter à la panique. Cela diminue la capacité de la population à évaluer les risques de manière précise et à prendre des précautions en conséquence. Le gouvernement doit adopter une démarche de protection de la santé publique qui soit respectueuse des droits et rétablir l'accès à Internet en Inde. Voilà. En Iran maintenant. Contre la propagation du virus en prison, les autorités iraniennes ont annoncé le 18 mars la libération de prisonniers dont la peine est inférieure à 5 ans. Les prisonniers reconnus coupables d'infractions relatives à la sécurité, parmi lesquels certains prisonniers d'opinion sont notamment concernés par cette annonce des autorités en Iran. Quant à ceux qui avaient bénéficié d'une permission de sortie ces dernières semaines, ils n'auraient pas à retourner dans les prisons. Nous saluons la libération de toute personne détenue en tant que prisonnier d'opinion, même si ces personnes n'auraient en fait jamais dû être incarcérées. Nul ne devrait passer un seul jour derrière les barreaux pour avoir exercé pacifiquement ses droits. Il est scandaleux qu'un si grand nombre de prisonniers d'opinion, dont les défenseurs des droits humains, demeurent injustement emprisonnés. De nombreuses personnes ayant pris part aux manifestations pacifiques de novembre 2019 à janvier 2020 le sont également. Nous appelons une nouvelle fois les autorités iraniennes à libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers d'opinion. En France, plus de 26 000 personnes ont signé notre pétition pour demander la libération des manifestants en Iran. Voilà, quand on sait la promiscuité qu'il y a dans les prisons et ce risque énorme pour ces prisonniers par rapport à l'épidémie, il est urgent de libérer tous les prisonniers d'opinion dans le monde. On va à nouveau écouter maintenant Ashkar qui nous chante l'Empire de papier.
Combien de guerres, combien de scandales? Combien d'empires de papier? Ainsi l'homme devint un animal.
Croquant son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, croquant son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés. Abattu des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons, pour quelques bouts de pain. Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifié pour l'exemple ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, quand vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'Empire. Jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Tout ce que nous avons conquis, tout ce que nous avons bâti sur les ruines de nos pères, ce royaume si fragile, géant aux pieds d'argile, redeviendra poussière. Soldats, un jour soudain, notre papier ne vaut plus rien, c'est tout un empire qui éclate. Nos montagnes de billets, nos tours, nos villes, nos palais, vulgaires châteaux de cartes. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Si l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier.
Voilà, alors dans cette crise du Covid-19, on s'aperçoit bien sûr que les plus pauvres sont les plus exposés, hein. On pense notamment aux personnes sans domicile fixe, hein, comment se confiner quand on n'a pas de maison, de chez soi. On pense bien sûr aux réfugiés, hein, avec ou sans papier, et aux plus pauvres d'entre nous. Alors, on a un souci aussi au niveau international par rapport aux travailleurs migrants. Alors, bien sûr, dans tous les pays, mais aussi principalement au Qatar, où les travailleurs migrants sont exposés au coronavirus. Alors que le monde lutte pour contenir la propagation de la pandémie, les travailleurs migrants sont particulièrement exposés au risque de contracter le virus. Au Qatar, les secteurs qui abritent un très grand nombre de logements de travailleurs migrants sont placés en confinement après que des centaines d'ouvriers du bâtiment ont été infectés par le coronavirus Covid-19. Les travailleurs, davantage marginalisés et discriminés, les camps de logement et de travailleurs sont notoirement surpeuplés. Et du fait du manque d'installation d'eau et d'assainissement adéquat, il est forcément plus difficile pour eux de se protéger face au virus. La promiscuité des personnes entassées dans ces camps ne permet aucune forme de distanciation sociale. Les droits humains doivent demeurer au centre de toutes les mesures visant à prévenir et contenir le virus du Covid-19. Pourtant, le gouvernement du Qatar n'a pas veillé à ce que les soins préventifs et les traitements pour les personnes affectées soient accessibles à tous et sans discrimination. En effet, les travailleurs migrants ne bénéficient pas tous d'indemnités maladie lorsqu'ils ne peuvent pas travailler en raison de l'épidémie et n'ont pas tous accès aux soins. Le gouvernement du Qatar devrait y veiller. Au cours de nos recherches au Qatar, nous nous sommes rendus dans les camps de travail dans la zone industrielle de Doha, où une forte population de travailleurs migrants sont logés dans des conditions déplorables, dormant dans des lits superposés dans des chambres surpeuplées avec des installations sanitaires médiocres, parfois sans électricité ni eau courante. Depuis 2010, lorsque le Qatar s'est vu accorder le droit d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la population des travailleuses et travailleurs migrants au Qatar a rapidement augmenté, venant des pays les plus pauvres du monde et travaillant dans des secteurs comme la construction, l'hôtellerie et les employés de maison, ils représentent 95% de la main-d'œuvre du pays. Nous avons fait part à maintes reprises de nos préoccupations vis-à-vis des droits des travailleuses et travailleurs migrants dans la zone industrielle et du système qui favorise l'exploitation au travail en vigueur au Qatar. Voilà, sachant que le Qatar est un des pays les plus riches du monde, c'est scandaleux de maintenir ces gens dans ce dénuement et ce manque de protection. Et bien sûr, nous allons parler du terrible sort qui attend les Syriens. Il est urgent d'agir afin de sauver les vies d'un nombre incalculable de Syriens à risque, en particulier la vie de celles et ceux qui sont toujours détenus dans les conditions épouvantables dans les centres de détention du régime impitoyable de Bachar el-Assad. Officiellement, Damas continue d'affirmer qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté en Syrie. Toutefois, cette information provient d'un régime connu pour ses mensonges. Si ces 9 années de crise et de répression en Syrie nous ont appris quelque chose, c'est bien que les autorités, ainsi que la Russie et d'autres forces alliées, ont systématiquement transmis de fausses informations au monde, y compris aux Nations Unies, sur la situation humanitaire dans le pays. Nous devons donc faire preuve du plus grand scepticisme face aux affirmations faisant état de l'absence de cas de coronavirus en Syrie. La capacité du régime à détecter les cas dans l'ensemble du pays et à les traiter se trouve extrêmement limité au vu du manque critique de personnel formé et de matériel. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au moins 70% des professionnels de santé ont quitté le pays et dans toute la Syrie, seulement 64% des hôpitaux et 52% des centres de santé primaires étaient complètement opérationnels à la fin de l'année dernière, une situation catastrophique en soi qui empire encore aujourd'hui. Après des années de conflit, au cours desquels les hôpitaux et les cliniques ont été impitoyablement pris pour cible par les forces du gouvernement syrien et de la Russie, le pays se trouve désormais en situation de vulnérabilité extrême face à une épidémie mortelle de coronavirus. Nous devons nous préparer au pire. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont vu le film Pour Sama, où on voit vraiment ce médecin là, qui travaille dans l'hôpital. L'hôpital est bombardé, ils prennent une maison qui n'est pas reconnue comme hôpital pour la transformer en hôpital afin d'éviter le bombardement, puisqu'ils font des bombardements ciblés justement sur les écoles et les hôpitaux, ce qui est vraiment scandaleux et horrifiant. Voilà, donc. En prenant la métaphore de l'être humain et en imaginant que la Syrie soit une personne, cette dernière entrerait dans la catégorie des plus vulnérables face au coronavirus. Le pays, si l'on peut dire, a été vieilli par le conflit et il présente des pathologies sous-jacentes graves. Si le coronavirus devait apparaître dans les camps surpeuplés et insalubres du nord-ouest de la Syrie, Ce serait terrible. Ce serait pire encore s'il venait à se propager dans les établissements pénitentiaires où Bachar el-Assad met les opposants. Les prisons de Bachar el-Assad sont tristement célèbres en raison de leur inhumanité qui se traduit par une surpopulation chronique dans des conditions innommables et par un manque de nourriture et de soins médicaux. D'anciens détenus de la prison de Sednaya ont évoqué auprès des chercheurs d'Amnesty des conditions barbares avec des cellules de 3 mètres carrés accueillant parfois plus de 50 personnes. Les détenus, déjà affaiblis par la torture et autres mauvais traitements, le manque de soins et la peur qui les tenaille concernant leur sort. Une épidémie de coronavirus serait catastrophique. Il est fortement à craindre que les détenus se trouvent abandonnés à leur sort face à la maladie et en meurent. La situation est critique. De nombreux défenseurs des droits humains, journalistes, avocats, médecins et travailleurs humanitaires croupissent dans les prisons du régime. Les Nations Unies doivent exiger la libération immédiate de toute personne à risque face au coronavirus détenue dans les geôles syriennes, ainsi que la libération sans condition de toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exprimé pacifiquement leur opinion. Il faut forcer le régime à sortir rapidement de sa logique de propagande, vouée à montrer l'image d'un Bachar al-Assad infaillible et à faire passer pour une fois la santé de la population syrienne en priorité. Toute autre approche serait incroyablement irresponsable et dangereuse. On ne le répétera pas assez, ce n'est pas le moment pour le gouvernement syrien de faire preuve de son manque de transparence, de sa cruauté, de son incompétence habituelle. Il y a 9 ans, le régime a commis une erreur monumentale en ordonnant à ses forces d'ouvrir le feu sur des manifestants pacifiques. Il ne doit surtout pas en commettre une nouvelle dans sa gestion du coronavirus. Des millions de Syriens ont déjà vu leur vie détruite par les années de bombardements, d'attaques aux armes chimiques, d'emprisonnement, de torture et de meurtre. C'est ça la guerre. Nous ne devons pas permettre que celles et ceux qui croupissent dans les camps sordides de Syrie ou dans les ignobles prisons de Bachar al-Assad soient condamnés à mourir du coronavirus. Voilà la déclaration d'Amnesty International concernant la Syrie. On va maintenant écouter une chanson de Calogero. On fait comme si.
Dimanche imprévu, un homme chante là-bas sur un balcon. Sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo. On a éteint les chaînes d'info. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on. Être si loin nous rapproche. Même pour parler de rien, du bleu du ciel, surtout donne-moi des nouvelles. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on. cet imbrosé silence qui vient de la rue. Juste un dimanche de plus. Sûr que nos vies d'après seront plus belles. Surtout donne-moi des nouvelles.
Donc voilà, je reprends l'antenne. Donc vous êtes tous en confinement, enfin tous, à part les personnels soignants, les caissières, tous ceux qui travaillent pour nous aussi. Hein. Et donc en confinement, on a le temps d'agir. Vous pouvez donc aller sur amnesty.fr, partager des informations, signer les pétitions en ligne, vous verrez, il y en a plusieurs. Faire des courriers, hein, notamment interpeller notre pays sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, qui, avec sa coalition, bombarde le Yémen. Et puis, vous pouvez également visionner des films dans le cadre du Festival au cinéma pour les droits humains. Alors, on a au mois de mars, on a normalement le Festival des droits humains. On avait commencé à Digne une première séance sur la Chine, justement, au début mars, et puis on en avait une autre de court-métrage qu'on a bien sûr annulé. Et on a certains réalisateurs qui ont été d'accord pour que nous mettions en ligne leurs films. Donc régulièrement, tout le long du mois de mars, en allant sur le site Au cinéma pour les droits humains, vous avez des films que vous pouvez visionner et noter de 1 à 5. Alors 1 si vous n'avez pas aimé le film, 5 si vous l'avez aimé énormément. Voilà. Et comme ça, on pourra remettre le prix et les prix que nous attribuons dans le cadre de ce festival au cinéma pour les droits humains. Alors aujourd'hui, vous... Oui.
Est-ce qu'on peut trouver tous les films qui étaient programmés ou pas forcément?
Non, alors il fallait l'autorisation des réalisateurs, bien sûr.
D'accord. Et les courts-métrages non plus? Non.
Alors il y a des courts-métrages et des longs-métrages, ils ne sont pas tous visibles en même temps. Hein. Aujourd'hui, par exemple, je suis allé sur le site et on peut voir le film qu'on a fait, nous, passer à Digne, sur Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Voilà, donc ça parle justement des événements de Tiananmen, de cette volonté des Chinois d'accéder à la démocratie, une vraie démocratie avec une liberté d'expression. Hein. C'est ce que demandaient les étudiants sur la place Tiananmen. Ils demandaient que ça, hein, une liberté d'expression. Ils ne demandaient pas la chute du régime, mais pouvoir vivre dignement et pouvoir exprimer leur opinion. Alors, Liu Xiaobo était à ce moment-là, quand les événements de Tiananmen ont commencé, il était aux États-Unis et il a tenu à rentrer. Hein, donc, c'est un intellectuel qui a été un petit peu le porte-parole de ses étudiants. Hein, il s'est retrouvé donc sur la place Tiananmen avec eux. Il a même commencé une grève de la faim. Et quand il a compris que les autorités avaient choisi la force pour réprimer cette manifestation qui durait depuis plusieurs jours, il a essayé de convaincre les étudiants d'évacuer la place. Et je pense qu'il a sauvé un grand nombre de jeunes. Mais un grand nombre de jeunes, ainsi que tous les manifestants, ont été tués lors de ces répressions. Et c'est vrai qu'on a l'image de l'homme qui arrête le char. Ça, c'était le lendemain. Mais la veille, dans la nuit, du 4 au 5, les chars ne se sont pas arrêtés sur les personnes. Et énormément de gens ont été tués. On ne peut pas savoir exactement le nombre. Mais voilà. Et quand Liu Xiaobo a eu le prix Nobel de la paix, il a dit que ça aurait dû être les femmes de la place Tiananmen qui aurait dû avoir ce prix, c'est-à-dire toutes ces femmes qui pleurent un fils, un mari, voilà, tué par le régime. Donc, si vous allez au cinéma pour les droits humains, vous pouvez visionner aujourd'hui Liu Xiaobo, l'homme qui a défait Pékin. Et vous avez un petit court-métrage sur une rencontre avec Pierre Aski, qui est l'auteur du livre Liu Xiaobo, l'homme qui a défait Pékin, d'où est tiré ce film. Voilà, c'est un documentaire qui dure une heure et qui est vraiment passionnant. Voilà, et puis vous pourrez, à la suite de ce visionnage, le noter de 1 à 5. Alors, on a quand même, dans ces temps difficiles, une bonne nouvelle. C'est que le Colorado a aboli la peine de mort. C'est le 22e État des États-Unis à abolir ce châtiment inutile, cruel et dégradant. Et on espère que d'autres vont suivre pour que les États-Unis, enfin, ce pays démocratique, abolisse ce châtiment inhumain. Voilà, on va passer maintenant une chanson de Pâle Traîné, Il y a de la joie, pour mettre un peu de la gaieté dans nos cœurs. Et peut-être, si on a encore un petit moment, je vous lirai un extrait de Corinne Peluchon, un article qu'elle a publié dans Le Monde. Voilà, on écoute.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Voilà, donc... J'ai trouvé un article d'une philosophe, Corinne Peluchon, qui parle bien sûr de la pandémie, dans le journal Le Monde du mardi 24 mars. Alors je vous cite quelques extraits de son article. Elle dit: il existe une convergence des crises écologiques et sanitaires. On constate que les nouveaux virus sont souvent d'origine animale, car à force d'occuper toutes les terres, nous détruisons l'habitat des animaux sauvages et les condamnons à se rapprocher de nous. Par ailleurs, dans une économie mondialisée, les virus circulent. Nous ne maîtrisons plus les effets de cette multiplicité des échanges. Les conséquences en termes de mortalité pour l'économie seront terribles. Nous sommes les victimes d'un système économique que nous avons créé et qui est fondé sur l'aveuglement face aux limites planétaires et aux conséquences sanitaires de l'obsession du profit et du primat de la quantité sur la qualité. Un peu plus loin, elle dit: oui, notre modèle de développement génère des risques sanitaires colossaux et des contre-productivités sociales, environnementales, psychiques. Non, le soin, la protection des plus fragiles, l'éducation, l'agriculture et l'élevage ne peuvent pas être subordonnés au diktat du rendement maximal. Il importe d'organiser le travail en fonction du sens des activités et de la valeur des êtres impliqués. Un peu plus loin, le vrai défi aujourd'hui, c'est de faire de cette crise l'occasion d'une transformation individuelle et collective afin que la conscience de notre vulnérabilité, de notre appartenance à un monde plus vaste que soi, de notre lien au vivant, devienne un savoir incarné et vécu qui transforme notre comportement. Pour contrer la tentation de la démesure, de la toute-puissance, ce que les anciens appelaient l'urbis, l'ubris, c'est à nous de prendre le temps individuellement et collectivement de réfléchir à la société dans laquelle nous voulons vivre. Ceux qui ont fait l'expérience de la maladie savent qu'elle ralentit et rétrécit la vie et qu'elle révèle aussi ce qui est essentiel. Cette épidémie peut être l'occasion de se demander ce qui a du sens dans la vie humaine. Est-ce prendre l'avion pour un séjour de quelques jours ou pour une conférence plus ou moins utile à l'autre bout du monde? Acheter du miel qui vient du Brésil? Tolérer que la viande ait traversé 8 pays avant d'atterrir dans son assiette et qu'elle ait coûté autant de souffrance aux animaux? Comment faire mieux avec moins? Voilà, donc c'était un article de Corinne Péduchon dans Le Monde du mardi 24 mars. Voilà, notre émission est terminée. Essayez de protéger vous et protéger les autres. Merci beaucoup.
Merci Régis, à bientôt.
Et à bientôt.
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et 4 murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faiblesse est d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, jeune et joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer 6 pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre, sous les ailes de la colombe. Délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnestie, amnestie, allume tes bougies. Amnestie, amnestie, écris-nous, je t'en prie. Amnestie, amnestie, j'allume ma bougie. Amnestie, amnestie, pour libérer, j'écris.